Salut à tous. Aujourd'hui, on va critiquer certains points clés du discours de Jean-Marc Jancovici. Jancovici, c'est un ingénieur polytechnicien de 62 ans et c'est probablement la personne la plus influente sur les thèmes du changement climatique et de l'énergie en France. Depuis les années 2000, il abat un travail de vulgarisation absolument dingue. Les vidéos de ses conférences ou de ses interviews, elles font plusieurs dizaines de millions de vues sur Internet. Et sa BD, Un monde sans fin, qu'il a écrite avec le dessinateur Christophe Blain, avec plus de 800 000 exemplaires vendus, bah c'est tout simplement le livre le plus vendu de l'année 2022. Grâce à Jancovici, des millions de Françaises et de Français ont compris que l'humanité allait devoir apprendre à se passer des énergies fossiles, le charbon, le pétrole et le gaz. Et ça pour deux raisons. Bah d'abord, elles sont la cause principale du réchauffement climatique. Et ensuite, avec les pics pétroliers et gaziers, leur production va diminuer, qu'on le veuille ou non. Le problème, c'est que tout notre monde moderne est fondé sur la consommation de ces énergies fossiles. Les téléphones, les fringues, la nourriture, tout a été produit avec du charbon, du pétrole ou du gaz. D'où la question, comment nous passer de ces énergies sans revenir au 19e siècle? Aujourd'hui, parmi les experts de l'énergie, il est consensuel de dire que les énergies renouvelables, et en particulier le solaire et l'éolien, sont une partie indispensable de la solution en France et dans le monde. Il suffit de parcourir n'importe quel rapport du GIEC pour voir qu'il n'existe aucun scénario pour se passer des énergies fossiles qui ne s'appuie pas sur un développement massif du solaire et de l'éolien. C'est là-dessus que Jancovici développe depuis longtemps un discours singulier à contre-courant du consensus mondial. Pour lui, les énergies solaires et éoliennes ont de trop gros défauts pour espérer un jour remplacer les énergies fossiles. Et ceux qui y croient, eh ben, ils se mettent le doigt dans l'œil et jusqu'au coude. Les solutions que Jancovici met en avant, c'est le nucléaire et la sobriété. En plus de construire plein de centrales, il faudra accepter de renoncer à des parties de notre confort, avoir des bagnoles moins grosses, prendre beaucoup moins l'avion, manger moins de viande, acheter moins d'objets par exemple. Mais même avec du nucléaire et une bonne dose de sobriété, Jancovici nous peint un futur où, sans énergie fossile, l'énergie manquera et où l'économie s'effondrera. Dans sa BD, comme dans ses conférences, il projette un avenir qui sera quelque part entre beaucoup plus compliqué, voire carrément catastrophique. Quand on écoute Jancovici dérouler ses arguments, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression que tout est carré, rigoureux, implacable. On comprend tout parce que lui-même a tout compris. C'est vrai que Jancovici, c'est un vulgarisateur hors pair. C'est grâce à lui que beaucoup de gens ont ouvert les yeux sur les conséquences terribles du réchauffement climatique, le rôle décisif de l'énergie sur nos modes de vie et du rôle de la sobriété qu'on va devoir toutes et tous apprendre à pratiquer, tant à l'échelle individuelle que collectivement comme société. Franchement, sans lui, combien de personnes auraient entendu parler des quotas de vol en avion ou encore de l'UNSCEAR, le GIEC de la radioactivité ? Nous-mêmes, on a été profondément marqués par ses conférences et ses bouquins, on est hyper admiratif du travail qu'il a accompli, mais sur certains sujets, son discours est incomplet, voire carrément trompeur. Ce qu'on va montrer aujourd'hui, c'est que dès qu'il parle du solaire ou de l'éolien, son discours, il est tellement en décalage avec la réalité qu'on observe aujourd'hui, qu'il donne une vision trompeuse de la transition énergétique en cours et des priorités. Là, si vous nous découvrez, vous pouvez sûrement vous dire « Oh, ça va encore être une critique flinguée de Janco par un anti-nucléaire qui va nous faire une défense des renouvelables caricaturale. » Mais pas du tout, hein. Dans les dizaines de vidéos sur l'énergie qu'on a consacrées depuis 4 ans sur notre site Osons Comprendre ou dans notre livre « L'avenir de l'énergie » sorti l'année dernière, on défend la construction de nouvelles centrales nucléaires en France. Vous avez donc écouté une critique de Jancovici sur les renouvelables par des pro-nucléaires.
C'est un paradoxe.
Ce qu'on vous propose de faire avec nous, c'est de détailler les 6 arguments les plus importants par lesquels Jancovici décrédibilise le solaire et l'éolien. À chaque fois, on va en détailler la logique et on va vous montrer, source à l'appui, en quoi ils s'éloignent de la réalité qu'on peut observer aujourd'hui et en quoi ils induisent le public en erreur. Voilà ces 6 arguments. 1. Le solaire et l'éolien que les médias présentent depuis plus de 15 ans comme la solution ne représentent aujourd'hui qu'une part négligeable de l'énergie mondiale. 2. Le solaire et l'éolien ont un défaut majeur et quasi insurmontable. Ces énergies sont intermittentes, elles ne produisent que quand il y a du soleil ou du vent. 3. Le solaire et l'éolien sont tellement gourmands en métaux et en matériaux qu'ils ne peuvent pas remplacer durablement une grande part des énergies fossiles. 4. Le solaire et l'éolien sont tellement inefficaces que viser le 100% renouvelable nous obligerait à couvrir des immenses parties de notre territoire. 5. Le solaire et l'éolien ont un taux de retour énergétique sûrement trop faible pour pouvoir maintenir construire une société moderne. Et ça, c'est indépassable, c'est de la physique. On va voir ce que ça veut dire, on va voir si c'est vrai avec un invité de marque, Rodolphe de la chaîne Le Réveilleur.
Salut les gars, et merci pour l'invitation.
Et si les énergies renouvelables n'existent que grâce aux énergies fossiles utilisées pour les fabriquer et les transporter, sans charbon, sans pétrole et sans gaz, leur prix serait multiplié par 30, si tant est qu'on arrive même à les fabriquer. Sur ces 6 arguments, qui sont au cœur de son discours sur les renouvelables, Jancovici a tort. S'il ne s'agissait que de quelques petites erreurs sans conséquence, on ne prendrait pas le temps de faire cette vidéo. Mais on pense que derrière ces arguments se joue quelque chose de fondamental sur l'idée de transition énergétique, l'avenir de notre pays et même du monde entier. Parce que même si on pense que le nucléaire est utile, le solaire et l'éolien ont un immense rôle à jouer, en France comme ailleurs, si on ne surestime pas leurs défauts et qu'on leur donne une juste place, une transition énergétique bien moins douloureuse que celle que décrit Jancovici, elle est possible, et ça, c'est une super nouvelle. Notre but, c'est pas du tout de nous attaquer à Jean-Marc Jancovici comme personne, ou de nier tout ce qu'il a apporté sur le climat ou l'énergie. Nous-mêmes, on serait pas là devant vous si on ne s'était pas passionné pour ces sujets, justement grâce à lui. Mais aussi fécond et enthousiasmant qu'il peut être, c'est aussi important de voir quand Jean-Marc Jancovici s'éloigne des réalités observables aujourd'hui. Vous le pressentez, on a du pain sur la planche, c'est pourquoi pour pas faire trop long, on a choisi de vous proposer notre critique de Janco en 2 vidéos, la première qui s'occupera des 3 premiers arguments et la seconde des 3 derniers. On est sûr qu'on va avoir des débats sympas et passionnants à lire en commentaire, surtout que si jamais vous nous dites qu'on a oublié tel ou tel argument ou qu'on aurait pu mieux rédiger tel ou tel aspect de la vidéo, sachez vraiment qu'on veut intégrer vos retours avant de passer un jour cette vidéo en accès libre sur Osons Causer. Donc n'hésitez pas à nous balancer tous vos avis, tous vos commentaires. On a conscience que là, avec Janco, on s'attaque à un monument, on espère vraiment être à la hauteur et écrire avec le respect et la rigueur qu'on lui doit. Allez, c'est parti pour le premier argument. Si vous avez déjà regardé une conférence de Jancovici, il y a un graphe que vous avez forcément déjà vu, c'est celui qui montre l'empilement dans le temps des énergies dans le monde.
Alors, ramener à l'individu les nouvelles énergies renouvelables, c'est les 3 petits machins du haut, là, dont on vous explique que dans les 30 ans qui viennent, parce que c'est ça qu'il faut faire pour l'accord de Paris, ça va remplacer tout le reste dans un approvisionnement énergétique croissant, puisqu'il faut bien que la croissance économique ait lieu.
Puis, le dernier empilement à date concerne les nouvelles énergies renouvelables, dont on parle beaucoup dans le journal, mais quand vous regardez ce que ça représente dans l'approvisionnement mondial, c'est pas grand-chose, hein, éolien et solaire, ça représente 2% ou 3%. Et j'en profite tout de suite pour vous donner une petite règle qui vous sera utile toute votre vie. Il n'y a pas le moindre lien entre l'importance d'un sujet dans le journal et son importance dans la vie réelle.
Ce graphique, on le trouve aussi dans sa BD, et là, il n'y a aucune erreur, Jancovici a raison, l'éolien et le solaire ne forment qu'une toute petite partie de l'énergie utilisée dans le monde. Les fossiles dominent avec le pétrole, le charbon, puis le gaz, et au passage, on voit aussi que le nucléaire, c'est pas grand-chose hein, dans les énergies mondiales. Ok, de loin, ce qui se passe sur le solaire et l'éolien, 2-3% de l'énergie mondiale, on dirait que c'est presque rien. Mais si on zoome, on voit que la production solaire et éolienne explose. Alors oui, on part de très bas, mais ça monte méga vite, on a une belle exponentielle. Entre la COP de Paris en 2015 et 2022, la production solaire et éolienne a augmenté de 18% chaque année. Des taux de croissance comme ça, c'est immense. Plus 18% par an, ça veut dire doubler tous les 4 ans. Malheureusement, Jancovici, il ne montre jamais ses taux de croissance exceptionnels dans ses présentations. Il les passe totalement sous silence. Dans le cours que Jancovici consacre aux énergies renouvelables à la prestigieuse École des Mines, une école d'ingénieurs, en 2019, il réussit la prouesse de montrer tous les taux de croissance des différentes énergies par le passé, sauf ceux du solaire et de l'éolien. Pourtant, quand on les ajoute, ça claque, le solaire et l'éolien progressent à des taux de croissance impressionnants, bien plus rapides que tout ce qu'ont connu par le passé les autres énergies. Et là, franchement, je suis désolé, hein, je pense pas à mal, mais je vois pas comment Jancovici peut ne pas montrer une info aussi essentielle que la croissance exponentielle du solaire et de l'éolien, alors que, pendant les 2h18 que dure son cours sur les renouvelables, il arrive à montrer des choses aussi anecdotiques que le schéma de fonctionnement de l'installation d'un chauffe-eau solaire. C'est pas un peu bizarre comme priorisation des informations ? Dans tous les cas, grâce à leur taux de croissance impressionnant, le monde a installé depuis 2019 plus d'énergie solaire ou éolienne que d'énergie fossile. Même si on peut se réjouir de ce fait, on peut pas se satisfaire de voir les énergies fossiles continuer de croître. Le but, c'est d'arrêter de voir les énergies s'additionner entre elles et de commencer à les substituer, de voir enfin la consommation mondiale de charbon, de gaz et de pétrole diminuer. Et sur ce terrain-là, bonne nouvelle, l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, quand elle analyse les effets des politiques déjà mises en œuvre par les États, elle nous montre que le déclin des fossiles semble imminent, la croissance des renouvelables commence à payer. Jusqu'à présent, on a abordé le solaire et l'éolien en les comparant à l'ensemble de l'énergie utilisée par l'humanité. Mais s'il y a bien un domaine où ces énergies et leur essor ne sont pas négligeables, ne sont pas l'épaisseur du trait, comme le dit Jean Covici, c'est la production d'électricité. En 10 ans, entre 2012 et 2022, le solaire et l'éolien sont passés de 3% de l'électricité produite dans le monde à 12%. C'est pas l'épaisseur du trait. La Chine et les États-Unis, même sous Trump, ont fait mieux que la moyenne mondiale, et en Europe, c'est impressionnant. De 9% de l'électricité en 2012, le solaire et l'éolien produisent aujourd'hui un quart de l'électricité de l'Union européenne. Cette explosion du solaire et de l'éolien dans la production d'électricité, elle est impossible à ignorer, mais pourtant, on n'en a trouvé aucune trace dans les expressions publiques de Jean-Marc Jancovici. Et cette explosion du solaire et de l'éolien n'en est qu'à ses débuts. Quand on analyse ce qui est déjà planifié par les États, on trouve que sans nouvel engagement, juste avec ce qui est prévu aujourd'hui, la part du solaire et de l'éolien dans la production mondiale d'électricité, elle devrait passer d'environ 12% en 2022 à 27% en 2030 et à 53% en 2050. En ajoutant les autres énergies renouvelables, comme les barrages hydroélectriques, on arriverait à 73% de l'électricité mondiale couverte par les renouvelables en 2050. Il faudrait encore ajouter le nucléaire pour avoir toutes les énergies bas carbone qui, dans tous les cas, seront ultra majoritaires à la moitié du siècle. Et encore une fois, là, on parle là des politiques déjà prévues par les États. Rien n'empêche de faire encore mieux, d'aller encore plus vite. Mais dans tous les cas, vous constatez qu'on est à des kilomètres du discours. Le solaire et l'éolien, c'est rien, c'est négligeable, c'est que l'épaisseur du trait. Derrière cette croissance impressionnante, il y a bien sûr la volonté politique de lutter contre le changement climatique et les émissions de gaz à effet de serre, mais il y a aussi un fait économique majeur, l'effondrement des prix du solaire et de l'éolien. Depuis 2010, au niveau mondial, le prix de l'électricité solaire a été divisé par 10, celui de l'éolien terrestre par 3 et celui de l'éolien en mer par 2,5. Ça fait qu'alors que c'était bien cher il y a 10 ans, aujourd'hui, en moyenne mondiale, c'est devenu moins cher de produire de l'électricité avec un panneau solaire ou une éolienne terrestre que d'en produire avec une centrale à gaz ou à charbon. C'est cette chute fulgurante des prix qui permet de comprendre comment le Texas, le premier État américain producteur de gaz fossile, un État qui remet en question l'enseignement du changement climatique à l'école, un État farouchement républicain, comment le Texas connaît lui aussi un boom du solaire et de l'éolien qui représente aujourd'hui 26% de la production de son électricité. Pourtant, cet effondrement spectaculaire des prix du solaire et de l'éolien, Jean Covici ne le montre ni dans ses présentations publiques, ni dans sa BD. Ok, mais là je suis sûr que si vous connaissez votre Jean-Marc Jancovici, vous allez dire « Ok, le solaire et l'éolien s'envolent, leur prix s'effondre, mais c'est pas les vrais coûts, il faut inclure le prix de l'intermittence ». Quand on regarde les coûts complets d'un système électrique 100% renouvelable, là, la facture s'envole. Et encore, c'est si jamais on arrive à relever le problème de l'intermittence et à construire un système 100% renouvelable, ce qui reste à prouver. Ne vous inquiétez pas, le problème de l'intermittence et de ses coûts, on en parle tout de suite. C'est quoi le problème de l'intermittence? Et bien pour le comprendre, il faut d'abord savoir que dans un système électrique, il faut qu'à chaque instant, la production soit égale à la consommation pour éviter le blackout. Et pour maintenir cet équilibre, les moyens de production pilotables, ils sont géniaux. Les barrages hydroélectriques, les centrales à gaz ou à charbon, ou encore les centrales nucléaires sont des moyens dits pilotables parce qu'on peut ajuster leur production pour coller à la consommation. Schématiquement, quand à 19h, les gens rentrent chez eux pour se cuisiner une délicieuse ratatouille, eh ben là, on pousse nos centrales à fond, et quand la nuit, la consommation baisse, on les met au ralenti. La production des panneaux solaires et des éoliennes, elle dépend, elle, de la météo, du soleil ou du vent. Ces énergies sont dites intermittentes ou variables, on ne décide pas quand elles produisent, et si on n'utilise pas leur production quand elle est là, eh ben alors elle est perdue. Comment s'assurer d'avoir une production électrique égale à la consommation quand la production dépend autant de la météo? Ça, c'est le problème de l'intermittence du solaire et de l'éolien, et pour l'expliquer, Jean Covici propose deux niveaux de lecture dans ses interventions ou dans sa BD. Le premier niveau est le niveau le plus élémentaire et, de très très loin, le plus fréquent. Jugez vous-même.
Je signale que les moulins à vent, on connaît ça depuis des siècles. Donc si c'était moins cher de faire des moulins à vent que des réacteurs nucléaires, on aurait installé des moulins à vent avant d'avoir besoin d'installer des réacteurs nucléaires. C'est pas ce qu'on a fait.
Dans sa BD best-seller, c'est le combo, avec le soleil et le vent, la bière est tiède et le chirurgien il peut pas opérer. Pour régler son problème de l'intermittence, pas de vent égale pas d'opération, Jean Covici propose des solutions carrément absurdes. Dans ses conférences, la solution, c'est souvent noyer toutes les vallées des Alpes pour y construire des barrages réversibles. Barrages qui permettent de stocker de l'électricité quand il y a trop de soleil et trop de vent pour la recracher quand il n'y en a pas.
Avec les ENR, on prend tout autant un pari, puisqu'une fois qu'on installe un système, c'est pas pour le détricoter le lendemain. Donc en fait, on prend tout autant le pari qu'on va avoir de quoi compenser en permanence l'intermittence qu'on induit dans le système avec des dispositifs. Donc on prend éventuellement le pari, par exemple, qu'on va réussir à faire des stations de pompage partout dans les Alpes ou qu'on va avoir des batteries partout.
Et dans sa BD, il va, en tout cas d'après moi, encore plus loin dans l'abus. Il imagine que l'Allemagne construise un immense mur slash barrage de 150 mètres de haut le long de ses 2400 km de côte. Ce projet de mur de l'Atlantique bis en mer du Nord, en plus d'être complètement absurde, il ne permettrait de stocker seulement 2 semaines de la consommation électrique allemande, autrement dit 3 fois rien. Alors là, forcément, si vous avez écouté Jean Covici vous dire que quand il n'y a ni soleil ni vent, on a le choix entre d'un côté pas d'électricité, pas d'opération et pas de bière fraîche, et de l'autre, au choix, noyer toutes les vallées des Alpes ou construire un mur débile le long des côtes allemandes, eh ben vous vous dites que oui, le solaire et l'éolien, c'est pas des solutions sérieuses, c'est pas des solutions à faire. Si on fait ça, on va droit dans le mur. Ça, je suis désolé, je le caricature même pas, c'est le discours élémentaire, le discours le plus fréquent que Jean Covici donne sur l'intermittence des productions solaires et éoliennes. Mais heureusement, quand il prend le temps de développer, Jean-Marc Jean Covici est beaucoup plus sérieux. Il montre bien que l'intermittence du solaire et de l'éolien, c'est un problème important uniquement quand il faut stocker de grandes quantités d'électricité et que pour gérer ce problème-là, eh bien on a bien plus d'outils à notre disposition qu'une solution unique poussée à l'absurde.
Et des moyens de stockage aujourd'hui, il y en a, on va dire, 2. Il y a un moyen de stockage qui est les barrages réversibles. En gros, c'est avec l'électricité qu'on produit quand il y a beaucoup de soleil ou beaucoup de vent, on fait remonter de l'eau dans un barrage. Et quand il n'y a pas assez de soleil ou pas assez de vent, eh bien, on turbine l'eau du barrage et à ce moment, on a de l'électricité. L'autre solution, mais qui est à beaucoup plus court terme, c'est les batteries. Mais les batteries, ça permettra de faire, si on a beaucoup de voitures électriques par exemple, ça permet de faire du stockage journalier. Ça ne permet pas de faire du stockage qu'on appelle intersaisonnier, donc par exemple entre hiver et été. Ça ne permet pas non plus de faire du stockage interannuel parce que les conditions météo moyennes sur une année sont variables d'une année sur l'autre. On peut avoir une année avec plus de vent, plus de soleil et une année avec moins de vent, moins de soleil. Et la différence entre une très bonne année et une très mauvaise année peut aller jusqu'à 20 ou 25%. Donc ça veut dire que si on veut courir aucun risque, il y a à peu près un quart de la production électrique, enfin, ou de la consommation électrique plus exactement, qu'il faut être capable de stocker d'une année sur l'autre. Ça, c'est un rapport RTE-AIE qu'il a sorti il y a... À ces horizons de temps-là, ni les stations de pompage actuelles, ni les batteries ne peuvent permettre de stocker. Et le seul moyen qu'on aurait de stocker, c'est de produire du gaz avec l'électricité, quand il y a un surplus d'électricité, qu'on stockerait pendant des mois et avec lequel on referait de l'électricité quand on manque d'électricité. Mais le rendement global de cette affaire-là, il est de l'ordre d'un quart. Donc ça veut dire que l'électricité qu'on stockerait d'un trimestre sur l'autre ou d'une année sur l'autre, il faudrait en produire 4 fois plus que ce qu'on récupère à l'arrivée pour que ça flotte.
Cette présentation, elle est infiniment plus complète. L'intermittence, c'est plus « il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vent, il n'y a pas d'opération ». Ça devient un problème qu'on peut gérer et pour lequel on dispose d'un bouquet de solutions. Pour le stockage à l'échelle de la journée, on a les batteries. Ça aide à passer, par exemple, la nuit du panneau solaire. On a aussi les barrages réversibles ou encore, comme il dit, produire du gaz avec de l'électricité. Jancovici 2, il donne donc tort à Jancovici 1 et à ses solutions absurdes. On peut d'ailleurs juger que c'est dommage pour les lecteurs de la BD qui n'auront pas la présentation complète et auront donc une vision tronquée et trompeuse du problème de l'intermittence. Mais bon, ce sera peut-être dans la réédition, rêvons un peu. Jancovici 2, en revanche, il identifie un problème majeur. Pour passer des longues périodes où il y a peu de soleil et peu de vent, il faut du stockage d'électricité à grande échelle ou à l'échelle intersaisonnière, entre l'été et l'hiver, ou à l'échelle interannuelle.
Alors, à l'échelle de la journée, je le redis, on peut faire des batteries. On a suffisamment de matériaux pour faire des batteries. On peut y arriver, ce n'est pas un problème. Le problème qui reste non résolu, c'est à l'échelle de la saison ou à l'échelle de l'année. Et donc ça, c'est le deuxième truc aujourd'hui, on ne sait pas comment faire.
Et là, il n'y a rien à dire, il a raison. C'est à cette échelle de temps que la variabilité des productions solaires et éoliennes pose le plus de difficultés. À l'automne 2021, RTE, le gestionnaire du réseau électrique français, a sorti un rapport de référence de plus de 1000 pages qui évalue précisément la portée de ce problème de l'intermittence dans un système électrique 100% renouvelable. Que nous dit ce rapport qui a fait date dans la communauté des experts de l'énergie? Eh bien, il nous dit qu'en 2060, dans le scénario 100% renouvelable le plus efficace, l'intermittence intersaisonnière et interannuelle des renouvelables ne représente que 6% de la future consommation électrique de la France, bien moins que ce que nous disait Jancovici chez Illucide.
Donc ça veut dire que si on veut courir aucun risque, il y a à peu près un quart de la production électrique, enfin, ou de la consommation électrique plus exactement, qu'il faut être capable de stocker d'une année sur l'autre.
L'intermittence du 100% renouvelable pose donc un problème, c'est vrai, mais il est bien moins important que ce que nous dit Jancovici. Et à quel point il nous faut du gaz vert pour surmonter cette intermittence? Eh bien, le rapport RTE nous donne la réponse. Il nous suffit de produire 11 TWh d'électricité avec des gaz verts pour régler complètement notre problème. Ça représente à peine 2% de la consommation électrique en 2060. On comprend donc que, même lorsqu'il est le plus exhaustif, Jancovici déforme un peu les réalités et exagère de beaucoup les problèmes posés par le 100% renouvelable. Mais reste que oui, hein, produire et surtout stocker de l'hydrogène vert ou du méthane de synthèse pour ne produire ne serait-ce que 11 TWh d'électricité, ça reste un défi technique et ça risque d'être assez cher. C'est une des raisons pour lesquelles le même rapport RTE estime que le scénario 100% renouvelable le plus efficace coûterait, en coût complet, environ 20% plus cher que le scénario avec le plus de nucléaire. L'étude de RTE dément ainsi ce que Jancovici a répété durant de nombreuses années, qu'un scénario 100% renouvelable coûterait beaucoup beaucoup plus cher qu'un scénario avec du nucléaire. Un petit exemple, toujours dans le cours des mines de 2019 sur les énergies renouvelables, Jancovici parvenait, à coup de règle de 3, à montrer qu'un scénario 100% éolien, scénario que, soit dit en passant, personne dans le monde n'a jamais imaginé, allait coûter entre 10 et 20 fois plus cher qu'un scénario 100% nucléaire. Par rapport aux 20% plus cher que trouve l'étude de RTE, le petit scénario de Janko à base de règles de 3, il se trompe d'un ordre de grandeur pour reprendre l'une de ses expressions favorites. Mais ne nous arrêtons pas au prix, produire et stocker des grandes quantités de gaz vert, ça reste un défi technique qu'aujourd'hui on n'est pas sûr de relever. Il y a donc une incertitude technique que Jancovici, comme RTE du reste, note très bien. Imaginons donc que, pour pallier à l'intermittence du 100% renouvelable, on soit obligé de produire notre électricité, non pas avec des gaz verts, mais avec du gaz fossile. Que représenterait cette consommation de gaz fossile? Et bien là, dites-vous qu'en 2019, malgré toutes ces centrales nucléaires et malgré ces barrages, la France a produit 43 TWh d'électricité avec du charbon, du fioul et surtout du gaz. Eh bien, c'est 4 fois plus que les 11 TWh nécessaires à résoudre notre problème de stockage d'électricité à long terme, principal problème identifié par le rapport RTE comme par Jancovici avec les scénarios à 100% renouvelables. Ça veut donc dire que si on n'arrive pas à produire notre électricité avec de l'hydrogène vert ou du méthane de synthèse, mais qu'on le fait avec du gaz fossile, et ben là, notre électricité de 2050-2060, elle sera pas à 100% renouvelable, mais seulement à 98% renouvelable. Et ben dans ce cas-là, la France consommera toujours moins d'énergie fossile pour produire son électricité que la France d'aujourd'hui avec ses 70% d'électricité nucléaire. Ça, je suis sûr que vous ne l'avez jamais entendu, ni dans la bouche de Jean Covici, ni ailleurs. Attends, non, vous l'avez peut-être entendu chez Rodolphe quand il détricotait le rapport RTE.
On voit que les modélisations de RTE remettent sérieusement en cause l'idée que le déploiement de moyens renouvelables s'accompagne d'une augmentation de l'utilisation du gaz. Puisque le scénario M23, 100% renouvelable en 2060, repose moins sur le gaz que la production actuelle d'électricité en France.
Bref, quand on s'informe en utilisant les meilleures sources et les meilleures données, on voit bien que l'intermittence des productions solaires et éoliennes ne pose pas le problème insurmontable que dépeint à chaque fois Jean Covici. Mais une fois qu'on a dit ça, faut quand même savoir qu'en gardant même une petite dose de nucléaire pilotable, on s'en simplifie grandement la vie. Avec ne serait-ce que 35% d'électricité nucléaire et le reste de renouvelables, le problème du stockage long terme de l'électricité diminue fortement. Mais avec 50% de nucléaire, les besoins tombent même à zéro. On a les avantages des renouvelables sans leurs inconvénients. Tout est plus facile, moins incertain, et, si l'on en croit RTE, même moins cher. D'où notre position, à la fois dans nos vidéos et dans notre livre « L'avenir de l'énergie », mieux vaut garder une bonne dose de nucléaire à côté des énergies renouvelables. En clair, l'intermittence, c'est un problème, oui, mais c'est pas du tout aussi fatal que le prétend Jean Covici. En le caricaturant, il ne nous aide pas à le comprendre. Pour Jean Covici, un défaut majeur du solaire et de l'éolien, c'est qu'il consommerait trop de métaux, de 10 à 100 fois plus par kilowattheure d'électricité produite que le nucléaire.
Et ce que vous constatez en gros, c'est que quand vous passez des modes, concentrés, d'accord, dont notamment le nucléaire qui est décarboné, mais pas que vous avez ici, à des modes diffus, le vent et le solaire photovoltaïque, vous avez une multiplication par quelques dizaines à quelques centaines.
Là, c'est tout à fait exact. Le solaire et l'éolien sont très gourmands en métaux, beaucoup plus que les centrales nucléaires, les centrales à gaz, à charbon ou les barrages hydroélectriques. Et c'est ce besoin particulier en métaux qui, pour Jean Covici, rend peu crédible des scénarios 100% renouvelables qui pourtant marchent sur le papier.
D'abord, les scénarios qu'on regarde ne bouclent pas sur la matière, c'est-à-dire qu'ils ne disent pas... L'Agence internationale de l'énergie, la même qui disait « je vais faire frisou les moustaches, quasiment totalement des ENR, etc. », vous disent « ah ben non, on n'est pas sûr d'avoir assez de nickel, de cuivre, de lithium pour suivre les scénarios ».
Mais la vraie question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce qu'on a assez de métaux dans la croûte terrestre pour construire toutes les éoliennes, tous les panneaux solaires, toutes les lignes électriques et toutes les batteries d'un système électrique 100% renouvelable ? Ah bah pour répondre à cette question à plusieurs milliards de dollars, ça tombe bien, on a une étude toute récente qui nous mâche le travail. Elle fait la somme des besoins en métaux jusqu'à 2050 de scénarios de transition énergétique hyper ambitieux pour le climat parce qu'ils maintiennent le réchauffement climatique sous les 1,5°C. Ces scénarios, ils comptent des degrés variables de panneaux solaires, d'éoliennes, de nucléaires, de barrages et même de centrales fossiles avec capture de carbone. Et l'étude, elle va compter tous les besoins pour construire l'infrastructure électrique et le réseau de transport. Elle compte pas, en revanche, les batteries nécessaires au stockage. L'étude, elle est donc pas parfaite, mais elle donne une approximation acceptable, un ordre de grandeur, comme dit souvent Jean Covici, de ce que coûterait en métaux une infrastructure électrique. L'étude nous dit que bâtir notre électricité bas carbone, ça nous demanderait moins de 15% des réserves exploitables aujourd'hui et moins de 5% des ressources totales identifiées, de l'aluminium, du nickel, du cuivre, de l'argent et des autres métaux considérés. Il y a une seule exception, c'est le tellure, qu'on utilise aujourd'hui pour faire des panneaux solaires un peu plus efficaces et dont la construction du système électrique demanderait la quasi-totalité de toutes les ressources qu'on a identifiées aujourd'hui. Voilà, on peut respirer, le tellure, c'est loin d'être essentiel. Il y a 95% des panneaux solaires dans le monde qui ne contiennent pas de tellure et qui fonctionnent très bien. Et puis si vraiment on tient à ces panneaux solaires avec du tellure, eh ben il y a des projets d'exploration minière qui sont en cours, donc on va peut-être en trouver du tellure. Bref, même si l'étude n'est pas parfaite, elle nous apprend qu'à long terme, on semble avoir largement assez de cuivre, d'argent, etc. pour construire tous les panneaux solaires et toutes les éoliennes nécessaires à notre électricité bas carbone. C'est une super nouvelle. Ça nous montre que notre stock de métaux n'est pas une limite fondamentale à notre électricité renouvelable. Mais est-ce qu'on peut extraire ces métaux à la bonne vitesse? Parce que oui, si on en a dans le sous-sol, mais qu'on n'est pas capable de les extraire à la bonne vitesse pour notre transition, on est tout autant dans la mouise. C'est d'ailleurs ce que suggère Jean Covici encore très récemment en commentant un autre rapport de l'AIE.
Dans le dernier World Energy Outlook, il y a un très beau graphique qui a été sorti dans lequel ils vous disent voilà la demande en nickel, en cuivre et en lithium qu'on devrait avoir en 2030, enfin la quantité qu'il faudrait fournir pour suivre le scénario NZ2, donc net zéro. Et puis voilà là où on en sera en mettant bout à bout les mines actuellement en fonctionnement et celles qui sont en développement. Et partout c'est en dessous, de 15 à 20%. Et là on parle que de 2030.
S'il dit vrai, là c'est vraiment embêtant. En 2030, c'est-à-dire dans 6 ans après-demain quoi, il nous manquerait entre 15 et 20% des métaux dont on a besoin. Si c'est vrai, ça pue vraiment. Pour vérifier, on a retrouvé le graphique dont nous parle ici Jean Covici. Et oui, hein, par rapport à la ligne verte qui nous montre les besoins en métaux en 2030 des scénarios net zéro, soit zéro émission de gaz à effet de serre net, il manque, même si on compte les nouveaux déploiements miniers qui sont en bleu sur le graphique, environ 20% du cuivre, 40% du lithium et 30% du nickel. Quand on voit ça, il y a de quoi s'inquiéter, mais il y a deux problèmes avec la façon dont Jean Covici fait parler ce graphique. D'abord, les besoins en métaux que vous voyez, ils concernent pas seulement le système électrique, ils concernent aussi les voitures électriques. Dites-vous qu'en faisant la somme des besoins pour les éoliennes, les panneaux solaires, le réseau électrique et les batteries, on arrive à seulement 4% des besoins en lithium que vous voyez, et pour le nickel, c'est environ un quart. En réalité, quand on regarde la demande en métaux pour la transition énergétique, bah la quasi-intégralité de la demande en lithium, en nickel, mais on pourrait aussi ajouter en cobalt, elle vient des voitures électriques. Voilà pourquoi on rejoint Jean-Marc Jancovici dans son invitation à se passer de la voiture, même électrique, quand c'est possible. Et si on n'a vraiment pas le choix, bah de privilégier des voitures électriques, petites et légères, aux petites batteries plutôt que des gros SUV. La sobriété limite les besoins en métaux et donc la pression minière dans le monde. Le deuxième problème est plus fondamental. Dans ce graphique, il y a une ligne jaune qui vous montre la demande en métaux nécessaire pour tenir les engagements actuels des États. C'est à cette ligne jaune qu'il faut comparer la production minière des prochaines années. Parce que oui, on voit pas trop pourquoi des industriels iraient ouvrir des mines pour satisfaire des rythmes de production annuels dans scénario zéro émission nette que les États n'ont pas encore décidé. Et là, quand on compare la ligne jaune, ce à quoi se sont vraiment engagés les États, bah on se rend compte qu'on a toujours un problème, mais qu'il est bien moins important. Il ne manque que quelques pourcents du cuivre, du nickel et du lithium dont on aura besoin en 2030. C'est un problème qui peut compliquer le déploiement des voitures électriques, c'est vrai, mais il suffit de quelques nouveaux projets miniers ou de quelques substitutions technologiques pour qu'on y arrive. On pourrait par exemple remplacer le cuivre qu'on utilise dans les lignes ou les moteurs électriques par de l'aluminium, ça se fait déjà très bien. Ou encore remplacer le nickel des voitures électriques par des batteries lithium-fer-phosphate qui sont de plus en plus utilisées. On comprend donc que si vous ne vous informez en lisant et en écoutant que Jean Covici pour connaître les besoins en métaux du solaire et de l'éolien, il y a de grandes chances que vous surestimiez ce problème. En réalité, il semble y avoir largement assez de réserves et de ressources en métaux pour soutenir un déploiement massif et rapide de ces deux technologies. Pas d'alarme donc, et essayez de garder ça en tête quand vous entendrez quelqu'un vous parler de la gourmandise terrible des panneaux solaires et de l'éolien ou décrire leur déploiement comme une folie hors sol. À ce stade, il nous reste trois arguments importants de Jean-Marc Jancovici à examiner ensemble dans une deuxième vidéo. Le premier, c'est que le solaire et l'éolien sont tellement peu efficaces qu'elles occupent énormément d'espace. Le second, c'est que le solaire et l'éolien ont un taux de retour énergétique trop faible pour maintenir une société moderne complexe. Et enfin, le troisième, le solaire et l'éolien ne peuvent être construits à des prix compétitifs qu'avec des fossiles. Sans les fossiles, leur prix exploserait, si tant est qu'on arrive encore à les construire. Ce dernier argument, il doit vous rappeler Jean-Baptiste Fressoze et son thème de l'imbrication des énergies entre elles dont on a parlé dans cette vidéo. Cette fois, on ira encore plus loin pour y répondre. Vous le voyez, on a encore trois arguments super importants à explorer avant d'avoir un avis général sur l'idée que se fait Jancovici des énergies renouvelables. Mais d'ores et déjà, vous pouvez constater que dans son discours sur le solaire et l'éolien, il y a de gros manques et parfois des erreurs. En 2024, ça commence à être compliqué de ne jamais présenter l'exponentiel de déploiement du solaire et de l'éolien avec des taux de croissance à deux chiffres et l'effondrement de leurs coûts. On trouve que c'est de plus en plus critiquable de rester fixé à la part dans l'énergie totale qu'elles occupent aujourd'hui en disant que c'est l'épaisseur du trait sans jamais se rendre compte que leur part va exploser demain, mais ça mécaniquement, simplement en suivant les tendances actuelles. En 2024, ça devient aussi compliqué de présenter l'intermittence des productions solaires et éoliennes de façon aussi caricaturale et d'en faire un problème rédhibitoire qu'on règle avec des solutions absurdes. Alors oui, réussir le stockage à long terme et massif d'électricité pour aller vers du 100% renouvelable, ça peut rester un défi technique. Et oui, ça peut rester un peu plus cher. C'est d'ailleurs pourquoi nous, dans nos expressions, on défend toujours l'intérêt de faire en complément du nouveau nucléaire. Mais non, avec les bouquets de flexibilité dont on dispose, avec les batteries, les barrages réversibles et le stockage à long terme, on peut aller vers du très 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 fortement renouvelable sans que l'intermittence soit un problème. Enfin, si Jancovici a raison de dire que les besoins en métaux du solaire et de l'éolien sont supérieurs à ceux des centrales nucléaires, des barrages ou même des centrales à charbon ou à gaz, il a totalement tort de dire que ce besoin en métaux est un problème majeur. En réalité, le solaire et l'éolien représentent une très faible part des réserves et des ressources en métaux qu'on a déjà à l'heure actuelle. D'ailleurs, sur ce thème des métaux, je vous conseille vraiment notre vidéo sur l'extractivisme mondial. Si vous ne l'avez pas encore vue, elle vaut vraiment le coup. Bon, moi, j'espère que vous avez autant hâte de voir la suite de notre vidéo sur Jancovici que nous, on a hâte de lire vos retours en commentaire. Franchement, n'hésitez absolument pas à nous faire des retours sur le fond aussi bien que sur la forme. On a vraiment envie de proposer une critique constructive, argumentée, bienveillante. Donc, si vous trouvez qu'on y va un peu fort, qu'il manque certains arguments, qu'il y a des choses que vous aurez apportées, que nous, on a tues, n'hésitez surtout pas à nous le dire. Vous savez comme on apprécie vos retours, mais là, pour une vidéo comme celle-ci, où on attaque à Jancovici, ils seront méga précieux, on a méga hâte d'avoir vos retours. J'espère en tout cas que vous avez appris plein de choses avec cette première partie, qu'elle vous a stimulé intellectuellement et qu'elle a peut-être commencé à vous convaincre que le solaire et l'éolien, en complément d'une dose de nucléaire et d'une dose de sobriété, sont des alliés précieux pour limiter le changement climatique, nous passer des énergies fossiles et éviter l'effondrement économique et social que nous promet très régulièrement Jean-Marc Jancovici. Moi, je vous remercie encore d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'ai hâte de vous retrouver très bientôt sur Osons Causer ou sur Osons Comprendre. Prenez soin de vous, gros bisous.